Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de choisir Studio Tamani pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce journal. Au sommaire, la gestion des revenus reste un défi à relever dans la société. Face à la situation, des économistes ont mis en place le concept de l'éducation financière. Qu'est-ce qu'une éducation financière? La réponse dans ce journal. Le 4 novembre est maintenu pour la rentrée scolaire 2024-2025, une décision saluée par les parents d'élèves et le syndicat d'enseignants. Les tresseuses dans les différents quartiers de Bamako sont très prisées en cette période de préparation de la rentrée scolaire. La rédaction fait un focus sur ces dames. C'était là les grandes lignes, les détails dans un instant avec Juliette Koulibaly, Ibrahim Sanogo assure la technique. La faillite des entreprises, la chute des affaires et le déficit entre les revenus et les dépenses sont les principaux soucis financiers qui mènent les sociétés de nos jours. Pour résoudre ces difficultés et maintenir l'équilibre entre les dépenses et les recettes, des économistes ont alors élaboré le concept de l'éducation financière. C'est quoi l'éducation financière et quel est son apport? Des éléments de réponse dans ce reportage de Fatih Yattara.
L'éducation financière peut être définie comme étant l'acquisition des connaissances ou la compréhension des différents concepts financiers essentiels pour leur permettre de prendre des décisions sur la gestion de leur argent.
C'est en ces mots que l'économiste Abdoulaye Konaré a défini le concept de l'éducation financière. Selon lui, cette notion est essentielle pour le bien-être et le développement personnel d'un individu.
Lorsque vous gérez mieux votre argent, vous réduisez considérablement le stress lié aux soucis financiers. Car quand vous savez comment faire pour économiser et comment faire pour éviter les dettes excessives et de gérer ses dépenses, permet de vivre plus sereinement.
Pour le traditionnaliste Amadou Diallo, l'éducation financière fait partie des valeurs enseignées aux enfants en vue de modeler des adultes initiés, responsables et épanouis.
Autrefois, on apprenait l'épargne aux enfants depuis à bas âge. Dès que l'enfant gagne des jetons, à chaque fois on épargnait une partie qu'on utilisait pour lui payer des habits de fête et fournitures scolaires. C'est comme ça que l'enfant apprend à épargner.
Notons que cette approche est aussi saluée par d'autres économistes. Ces derniers s'accordent sur le fait qu'elle peut garantir l'autonomie financière et permettre de mieux gérer les imprévus en temps de crise.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux via la page Facebook et le compte X de Studio Tamani. Je vous le disais dans les titres, les écoles rouvriront le 4 novembre prochain. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves se dit rassurée par cette annonce du gouvernement. Passé ce délai, ses responsables indiquent que le pays risque d'accuser du retard par rapport à l'exécution du programme scolaire. Une inquiétude partagée par le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Toutefois, ses responsables se disent sceptiques quant à l'effectivité de cette décision. Plus de détails avec Ali Cissé.
Pour Abel Touré, secrétaire administratif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali, l'école doit nécessairement rouvrir ses portes. Cela afin de pouvoir écouler le programme scolaire et de donner plus de crédit au diplôme d'État.
Donc nous sommes tenus par ces impératifs-là. On est obligé de faire un choix. Ou alors l'école s'écroule ou nous prenons les dispositions idoines. La date du 4 novembre est tenable. Il faut maintenant trouver des mesures d'accompagnement. Il est grand temps que le gouvernement s'assume et prenne des décisions courageuses pour que nos écoles ne soient pas perçues comme des refuges en cas de sinistre ou de catastrophe naturelle.
Cet avis est plus ou moins partagé par le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Moulaye Koniba Koulibaly, membre du syndicat, exprime son scepticisme par rapport à l'ouverture des écoles sur l'ensemble du territoire national.
Il ne suffit pas seulement de construire des hangars. Il y a certains villages dans lesquels les enfants sont obligés de traverser des marigots pour aller à l'école. Avec la montée des eaux, le risque est très grand. En tout cas, j'ai des doutes. Mais si on ne parvient pas à rentrer à partir du 4 du mois prochain, ça va avoir également des conséquences sur le temps d'apprentissage et sur tous les programmes.
Initialement prévu pour le 1er octobre 2024, la réouverture des écoles a été reportée au 4 novembre 2024. Le gouvernement avance comme raison l'état de catastrophe naturelle.
Autre sujet de ce journal, le bégaiement est un trouble de l'articulation fréquent chez les personnes de tout âge dans notre société. Ce handicap dont les origines restent mal connues, les médecins orthophonistes expliquent une altération de la fluidité verbale normale. Ce trouble, bien que naturel, semble être gênant pour des personnes qui en souffrent. Des explications sur le sujet dans ce reportage de Mouloud Ag Mohamed.
Moussa Fane, âgé de la vingtaine, souffre du trouble de langage depuis son enfance. Il dit avoir souffert longtemps de ce handicap car il subissait de moqueries de son entourage. Mais affirme aujourd'hui franchir ses caps.
Depuis tout petit, je bégue, mais je n'ai pas honte. Mais quand je suis dans un milieu où il y a beaucoup de monde, quand je parle, les gens rient. Et c'est le seul moment où j'ai vraiment honte. Mes amis avec qui je traîne ont compris mon handicap et ne se moquent plus de moi.
Le bégement est-il une maladie ou pas? Les médecins et spécialistes orthophonistes assure que ce n'est pas une maladie, mais plutôt une interruption dans le rythme de la parole. Docteur Akpenin Deborah indique que multiples facteurs pourraient contribuer à son développement et impacter la personne qui en souffre.
C'est un trouble d'élocution qui est fréquent chez les personnes de tout âge. Ce trouble se manifeste par une altération de la fluidité verbale normale chez une personne et un mauvais enchaînement des mots ou des sons dans le discours.
L'orthophoniste affirme qu'il n'existe pas de traitements médicaux contre les bégements. Cependant, il existe des techniques d'accompagnement pour venir à bout du bégement ou au moins maîtriser ces troubles de la parole.
Elles occupent les différents coins des quartiers de Bamako. Il s'agit de ces groupes de femmes tresseuses. En cette veille de rentrée, elles sont assez sollicitées par les mamans. Elles sont spécialisées dans les tresses traditionnelles simples sans mèche à des petits prix. Oulé Diop est allé à leur rencontre.
Elles sont une trentaine de tresseuses installées à proximité de la grande mosquée de Bagadadi. Une d'entre elles est chargée de la gestion de l'espace. Elle s'appelle Aïchata Doningo. Elle dit avoir hérité de ses métiers.
Cette activité de tresse est un héritage pour nous. Nos parents sont passés par là. Ici, nous sommes tous pareils. On gagne beaucoup dans cette cohésion et l'entente.
Des mamans forment de longs files d'attente. Certaines assistent les coiffeuses pour tresser les plus petites. Mariam Kanta, pour cette cliente habituée des liés, elle a toujours coiffé toutes ses filles ici.
Je venais me tresser chez elle depuis toujours. Ce fut le cas pour ma première fille et durant toute son enfance. C'est ce type de tresse qui est recommandé pour les enfants. Ça aide pour les pousses de cheveux. Je suis toujours patiente malgré l'affluence.
Pour les tresseuses, grâce à cette activité, elles arrivent à subvenir aux besoins de leur famille.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Le Zoom sur fait un focus sur certaines femmes qui ne sont jamais prêtes quand il s'agit de sortir. Elles ont toujours quelque chose à faire à la dernière minute. Et le Zoom sur d'aujourd'hui est avec Assetou Kanté.
Attendez-moi, j'arrive, j'ai presque fini. Voilà le slogan des dames qui ne finissent jamais. Sa fille a fait partie de ce genre de femmes. Le matin, c'est toujours des disputes avec son mari Oussou, car madame n'est pas prête. Oussou la gronde. Dis, Safia, mon est éclaté. Autrement dit, pourquoi tu n'es jamais prête? Safia décide un jour de surprendre son mari Oussou en essayant de s'apprêter tôt et l'attendre cette fois-ci. Ce que Oussou ne sait pas, Safia l'attendait dans la voiture. Une fois devant leur véhicule, il aperçoit Safia assise devant. Surpris, Oussou s'éclata. Tiens, tu as battu le record aujourd'hui, jusqu'à ce que tu m'attends. Chapeau à toi. Mais la joie de monsieur n'est que de courte durée. Au moment de prendre la route, sa fille se rend compte qu'elle a oublié son téléphone. C'est le retour à la case de départ pour le pauvre Oussou. Des Safia, il y en a beaucoup. Il est difficile pour ces personnes de respecter les rendez-vous. Même en faisant des efforts comme notre chère Safia pour montrer sa bonne foi, c'est toujours la même chose. Comme quoi, l'habitude est une seconde nature.
L'habitude est une seconde nature, alors chère chères dames, évitons d'être comme des Safia et c'est sur ce Zoom sur que se referme cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Ibrahim Sanogo assurait la technique. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et il suffit de cliquer sur l'icône WhatsApp. Ce journal et le magazine qui va suivre est également disponible gratuitement sur le service Kunafoni au 37321. C'est gratuit. Vous devrez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Chers auditeurs, ne décrochez pas. Juste après le magazine Santé, vous aurez la version en bamanakan avec Aissata Diarra. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Le cancer du sein au Mali reste parmi les défis à relever sur le plan sanitaire. Malgré les nombreuses sensibilisations et les soutiens du gouvernement et ses partenaires aux malades, la maladie continue de faire des ravages. Au Mali, plus de 70% des cas de cancer du sein diagnostiqués perdent la vie dans l'année du diagnostic ou une année après. La capitale Bamako est pour le moment le seul endroit où la prise en charge est effective. Quel bilan faire du plateau sanitaire dans le traitement du cancer du sein au Mali? La réponse dans ce magazine santé réalisé et présenté par Adama Amadou Aïdara.
Selon les statistiques de Globocan, une organisation qui donne des statistiques sur le cancer, au Mali, le cancer du sein touche à peu près 2400 femmes par an. Cependant, le CHU du Point G, principal centre hospitalier dans le traitement de la maladie, accueille moins de 500 malades par an. Dr Sidibé Fatoumata Matogoma est médecin oncologue à l'hôpital du Point G.
Notre service, par an, nous envoie à peu près 350 à environ 450 patients. Les 2400 patients, c'est tout le Mali. Et malheureusement, comme la prise en charge du cancer ne se fait qu'à Bamako, on ne voit pas tous ces patients-là. Beaucoup ont du mal à tout abandonner, à laisser leur région, leur village pour venir s'installer à Bamako pour le traitement du cancer.
Celles qui acceptent de faire le déplacement ont soit une famille d'accueil ou soit sont prises en charge par une ONG. Cette dame rencontrée à Bamako est là depuis 10 mois et sous couvert d'anonymat, elle affirme quelques difficultés liées à son déplacement.
Tombouctou, il n'y a pas une radio de mammographie. Quand on réside dans une région, il faut te déplacer pour aller dans la capitale et rester un long moment. Ce n'est pas du tout facile en dehors de sa famille. C'est un traitement qui prend trop de temps. Ce qu'on souhaite, c'est que pour toutes les régions, il faut une radio de mammographie, un médecin oncologue pour éviter le déplacement.
La prise en charge du cancer du sein pour les régionaux est problématique. En plus du manque de plateaux sanitaires pour faire face à la pathologie, les femmes atteintes du cancer du sein arrivent généralement dans les centres de santé à un stade déjà avancé. C'est avec un cœur meurtri que les médecins de ces localités assistent au refus de certaines malades de rejoindre Bamako pour le traitement pour faute de moyens. Professeur Tidjani Traoré, chef de service gynéco de l'hôpital régional de Ségou.
Ils viennent déjà avec les diagnostics évidents. Où on ne peut pas faire grand-chose, donc c'est vraiment un problème. Et hormis ça, si on n'a pas de spécialistes et même les plateaux techniques pour la prise en charge sur place, quelquefois il y a des patients, on les réfère compte tenu du fait qu'ils n'ont même pas de connaissances à Bamako. Ils démissionnent carrément et disent non, nous on va rentrer à la maison, aller se soigner traditionnellement. Bon, ça nous fait un peu mal au cœur, mais on est un peu inefficace devant la situation.
À souligner également qu'à Bamako, où la prise en charge est faite, le nombre de spécialistes est minime. À cela s'ajoute la disponibilité d'une seule machine de radiothérapie pour tous les malades. Dr Sidibé Fatoumata Matogoma.
Les oncologues médicaux, on est au nombre de 6. Les oncochirurgiens, ils sont 3. En radiothérapie, ils sont 4. Il y a une cinquième qui est venue récemment. La chirurgie est largement accessible. La radiothérapie est disponible seulement à l'hôpital du Mali. On a un seul appareil qui est actuellement en rénovation. Il est en panne depuis 2022. Quant à la chimiothérapie, les produits sont disponibles. Le patient paye tout 100%.
L'association Solidarité et Soutien aux malades du cancer du sein demande une amélioration dans la prise en charge de cette maladie devenue un problème de santé publique. Fatimata Diawara, présidente de l'association et survivante du cancer.
Il y a un petit rhum qu'on fait, mais il y a des produits qu'on met dedans. Il y a un produit, il fallait être à la pharmacie avant 6 heures. Si vous ne venez pas tôt, vous trouverez que le produit est fini. Le cancer n'est pas soigné à un seul endroit. La maladie arrivée à un stade, vraiment ça va être difficile pour la personne atteinte de cancer de faire tout ce déplacement. Il faut qu'on revoie la prise en charge du cancer.
Médecins et malades sont unanimes. La meilleure manière de se prémunir du cancer du sein reste l'autopalpation et le dépistage.